Il est 7h sur France Culture. Et bon réveil, si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 11 octobre 2016. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une décision inédite aux États-Unis. Le président républicain de la Chambre des représentants ne soutiendra plus le candidat désigné par son parti pour la présidentielle. De quoi renforcer l'isolement de Donald Trump tout en enfonçant un peu plus son parti dans l'une de ses pires crises depuis des décennies.
Une grève du zèle et des rassemblements près des commissariats partout en France. C'est la manière dont les policiers veulent faire entendre leur ras-le-bol aujourd'hui après la violente agression de 4 agents samedi dans l'Essonne.
Les étudiants sud-africains refusent de voir leurs frais de scolarité augmenté à la rentrée de janvier prochain. De violents affrontements ont éclaté hier avec des policiers à Johannesburg. Nous irons sur place dans ce journal. À 7h13, dans le billet économique, Marie Vino reviendra sur les relations toujours à couteau tiré entre la Grèce et ses créanciers européens.
Et la question du jour, faut-il avoir peur des salles de shoot? Le sujet du jour, la prochaine crise sera-t-elle d'origine bancaire?
Peut-être un signe de la mauvaise passe que traverse Donald Trump. Une vingtaine de ses partisans seulement manifestent à Los Angeles au pied du siège de la chaîne CNN pour dénoncer un traitement défavorable des médias du candidat républicain à la Maison-Blanche. Une manifestation certes dans une ville démocrate, mais les pro-Trump essuient crachats, insultes, coups de klaxon et moqueries. Plus significatif encore, au lendemain d'un débat d'une virulence inédite contre Hillary Clinton, le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a annoncé à des élus de son parti qu'il ne défendrait plus Donald Trump dans le dernier mois, pourtant crucial avant l'élection. Plus question de faire campagne pour le milliardaire empêtré dans un scandale sur des propos obscènes qu'il a tenus contre des femmes. Comme si les cadres du Grand Old Party faisaient désormais de la course de Donald Trump pour la Maison Blanche une aventure personnelle. Correspondance de Frédéric Carbone.
Pour le Parti républicain, cette élection a tout d'un chemin de croix et plus on s'approche de la dernière station, plus l'implosion menace. Pour le patron du parti, la présidentielle n'est plus le sujet. Paul Ryan considère que l'élection est perdue. Il est vrai que les derniers sondages donnent plus de 10 points d'avance à Hillary Clinton et il veut concentrer ses forces sur l'autre scrutin du 8 novembre, le Congrès, où les républicains ne sont pas sûrs de garder leur majorité. Il abandonne donc Donald Trump sans formellement lui retirer son soutien et en donnant entière liberté à ses troupes. Mais c'est oublier la base, les électeurs républicains qui, à près de 70%, sont totalement fidèles à Donald Trump. Et voilà que des mécontents viennent manifester leur colère devant le siège du parti à Washington. Étalage des divisions, prémices de règlement de compte. Ce climat de jacquerie convient parfaitement à Donald Trump. Dans cette dernière phase de la campagne, il est le candidat 100% anti-système. Il qualifie d'hypocrite les responsables qui le lâchent et il suggère à Paul Ryan de s'occuper de faire voter des lois au Congrès plutôt que de perdre son temps à le combattre.
Frédéric Carbone à Washington pour France Culture. On ne s'attendait pas à ce qu'ils veuillent nous tuer. C'est le témoignage d'un des policiers violemment agressés samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Témoignage en une du Parisien de ce matin. Sébastien, 38 ans, brûlé au deuxième degré, raconte comment il s'est couché sur l'un de ses collègues en feu après le jet de cocktail Molotov dans la voiture des agents. La peur aujourd'hui de revenir sur le terrain. Une crainte partagée par Stéphane, délégué syndical unité SGP Police. La tournée des commissariats de l'Essonne hier par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve n'a pas apaisé la colère de cet agent. Il patrouille de nuit depuis 20 ans dans le quartier de la Grande Borne, entre les communes de Grigny et de Viry-Châtillon dans l'Essonne.
Ça nous est arrivé d'être caillassés, de s'extraire rapidement, dire voilà, les auteurs ils sont à tel endroit, on a instruction de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas un 2005, on ne veut pas un Villiers-le-Bel, on ne veut pas de Ziad et Bouna, voilà, tout ça ce sont des syndromes. Donc vaut mieux mettre les problèmes sous les tapis et puis voilà. Là, a priori, il y a une vague d'émotion pour ce pauvre collègue, mais dans une semaine, on sera passé à autre chose et puis voilà. Je veux dire, c'est eux, ils font leur boulot de politicien, mais ça ne règle pas le problème dehors. On a passé plein de caps ces dernières années parce que déjà, nous, on n'arrive pas à assurer notre propre sécurité, c'est quand même grave. Bon, vous voyez, là, je suis super énervé, j'ai 52 tensions, je devrais même pas aller bosser ce soir. C'est pas raisonnable. Et ben pourtant, je vais y aller. On n'a pas le choix, on est que deux.
Stéphane, délégué syndical Unité SGP Police, il répondait à Olivier Bois. Le ras-le-bol des policiers sur le terrain, relayé par Alliance, le premier syndicat de gardiens de la paix, appelle à une grève du zèle aujourd'hui. En clair, les agents sont invités à ne traiter que les urgences et les cas graves, à faire l'impasse sur les petites infractions du quotidien, comme un stationnement gênant. 4 autres organisations, SCSI, majoritaires chez les officiers, Alternative Police, minoritaire ou encore UNSA Police et unité SGP Police FO. Pour les gardiens de la paix, appel à des rassemblements devant les commissariats ou les services de police à la mi-journée. L'enquête à présent, après l'agression de ces quatre policiers samedi à la Grande Borne, les différents services de police qui interviennent dans le quartier en savent a priori déjà beaucoup, mais ils ne se parlent pas toujours, Emmanuel Leclerc.
Certains policiers de l'Essonne confirment que la Grande Borne n'est pas un quartier de non-droit où la police n'oserait plus s'aventurer. Au contraire, puisque plusieurs services y sont actifs, voire qui se marchent même sur les pieds et surtout ne se parlent pas. C'était le cas il y a 4 ans déjà, se souvient un magistrat, quand il fallait fortement protéger le moindre chantier. Et c'est toujours le cas, reconnaissait hier, hors micro, un officier. Les STUP, le renseignement territorial, la DGSI, la PJ, la Sûreté et le service général, les gardiens de la paix, tous ces services patrouillent, enquêtent, en civil, en tenue. Ils ont leurs informateurs, leurs tontons. Il y a un an, un très important chantier qui doit permettre de créer une rue traversante dans ce quartier très hermétique a été attaqué, 2 tractopelles incendiées par 20 de jeunes avec des cocktails Molotov déjà. Une enquête judiciaire avait été ouverte, normalement, ajoute un autre policier syndicaliste. Cela laisse le temps de savoir quels sont les groupes de jeunes délinquants capables de mener de tels assauts criminels et qui sont potentiellement les commanditaires, du moins s'il y a une bonne coopération entre les services de police concernés.
Elles avaient accepté de participer au démantèlement de la jungle de Calais, estimant que le campement insalubre ne pouvait pas rester en l'état avec ses 10 000 habitants. Les associations calaisiennes qui viennent en aide aux migrants claquent la porte et elles diront leur colère aujourd'hui au ministre de l'Intérieur et du Logement à Paris, car le démantèlement, qui pourrait débuter la semaine prochaine, n'est pas pour ces associations l'opération humanitaire annoncée. L'attitude de la France face aux migrants, critiquée à Vintimille en Italie, Médecins du Monde et plusieurs autres associations ont appelé solennellement à la réouverture de la frontière franco-italienne, 3 jours après le décès d'une adolescente érythréenne. Elle a été percutée par un poids lourd sur l'autoroute.
7h06, la suite du journal sur France Culture, Catherine Dutu. L'Allemagne célèbre les Syriens qui ont permis l'arrestation de leurs compatriotes.
Un réfugié de 22 ans soupçonné d'avoir préparé un attentat contre un aéroport à Berlin, c'est ce qu'a révélé hier soir le patron du renseignement intérieur allemand. D'Angela Merkel à la police, en passant par les réseaux sociaux, les Syriens qui ont aidé la police sont érigés en héros. On y revient dans le journal de 7h30. Après le veto russe à l'ONU sur un arrêt des bombardements à Alep, en Syrie, des raids qualifiés de crimes de guerre par Paris, la France, excédée, ira-t-elle jusqu'à annuler la visite semi-officielle de Vladimir Poutine à Paris? Le président russe doit participer le 19 octobre prochain à l'inauguration du centre orthodoxe russe dans la capitale. L'Élysée réfléchit, mais ce qui est sûr, c'est qu'au petit jeu de l'intimidation et de la surenchère, le président russe ne lâche jamais rien. Luc Lemonnier.
2 jours après l'ONU et les accusations répétées de crimes de guerre, la réponse de Poutine a été tout simplement d'annoncer l'agrandissement de sa base navale de Tartous en Syrie, une base qui devient du coup permanente, façon d'afficher clairement son intention de défendre le régime al-Assad dans la durée, quoi qu'il lui en coûte en termes d'isolement. Vladimir Poutine est un habitué de la roulette russe, il n'a peur de rien, la crise ukrainienne l'a privé des 2 navires Mistral, mais Paris a dû rembourser 1 milliard d'euros. En réponse aux sanctions américaines, c'est un accord bilatéral de recherche nucléaire que Moscou a annulé. Et c'est aussi pour répondre à l'élargissement de l'OTAN que des missiles ont été installés à Kaliningrad. Poutine rend coup pour coup ici. Il suspend un accord de recyclage d'ogives nucléaires datant de la guerre froide pour punir la Maison-Blanche. Là, il annonce l'envoi d'un porte-avions en Méditerranée et le déploiement de missiles solaires, comme si les rebelles disposaient d'une force aérienne. Poutine ira jusqu'au bout et peut-être ira-t-il aussi à Paris s'il sent qu'il n'y est pas le bienvenu.
En Afrique du Sud, les étudiants intensifient leur mouvement de protestation pour une éducation supérieure gratuite et décolonisée. Alors que le gouvernement a annoncé une augmentation de 8% des frais de scolarité pour la rentrée de janvier prochain, de violents affrontements ont éclaté hier entre policiers et étudiants autour de la prestigieuse université du Wits à Johannesburg. Le reportage de Lisa Fabian.
tous les ingrédients d'un cocktail explosif étaient de nouveau réunis sur le campus de l'université du Vitz en ce début de semaine. D'un côté, la direction universitaire qui souhaite coûte que coûte assurer les examens de fin d'année. De l'autre, des manifestants bien déterminés à empêcher toute reprise des cours tant que leurs demandes ne seront pas entendues. Entre eux, la police déployée en nombre et lourdement équipée, mais aussi des membres du clergé et des enseignants venus dénoncer l'escalade de la violence et le manque de dialogue. Les premières heures ont éclaté quelques heures après la reprise des cours, pluie de pierres et barricades enflammées contre gaz lacrymogène et canons à eau. Une fois le campus évacué par la force, étudiants et policiers se sont affrontés dans les rues du quartier de Bramfontein, au pied des immeubles de bureaux du centre-ville de Johannesburg. La police a dispersé plusieurs fois la foule avec ses véhicules blindés, un bus a été caillassé et incendié en pleine rue. Malgré cette nouvelle flambée de violence qui ne semble pas prête de s'éteindre dans les prochains jours, l'université du Vitz se rouvrira de nouveau ses portes aujourd'hui pour tenter d'assurer au moins la moitié des cours.
Lisa Fabian à Johannesburg pour France Culture. Le Samsung Galaxy Note définitivement off, le sud-coréen Samsung Electronics enjoint l'ensemble de ses partenaires mondiaux de mettre fin à la vente et aux échanges de son smartphone dernier cri après que des modèles déjà remplacés ont pris feu. C'est fini, l'international New York Times ne sera plus fabriqué à Paris, installé en France depuis son lancement à la fin du 19e siècle. À partir d'aujourd'hui, seule la régie publicitaire restera à Paris, Catherine Pétillon.
C'est la dernière étape du plan, résument certains journalistes de l'International New York Times. Aujourd'hui s'achève une exception vieille de 129 ans, un journal international en anglais réalisé à Paris. Lancé en 1887 comme une édition européenne du Herald Tribune, il est ensuite racheté par le Washington Post et le New York Times, et c'est ce dernier, seul aux commandes depuis une décennie, qui a finalement décidé de se passer de ses équipes à Paris. 69 postes sur 113 sont supprimés, seule restera la régie publicitaire. Ces derniers mois, l'édition et la pré-impression du journal ont déjà été répartis entre New York et Hong Kong. La qualité de notre journal venait précisément du fait que l'équipe était basée en Europe et qu'il n'était pas juste fait depuis l'Amérique, déplore le journaliste John-Paul Roffey. Ces suppressions de postes ont aussi lieu sur fond de transition numérique, alors que toute la presse écrite connaît une forte baisse de sa diffusion papier. On s'attendait à une restructuration vers plus de web. Au lieu de ça, la rédaction est tout simplement supprimée, raconte Pascal Lebeg, représentant CGT. Et le centre névralgique du développement numérique, ce sera Londres, argument avancé par la direction des coûts trop élevés en France. L'édition existera toujours, mais sous le nom New York Times, International ne sera plus qu'un sous-titre.
Le temps de ce mardi 11 octobre, une alternance de nuages et d'éclaircies toute la journée. Des averses localement orageuses sur la Corse et la Côte d'Azur. Les températures bien fraîches ce matin, comprises entre moins 3 dans le massif central à 6 dans l'ouest. Cet après-midi, comptez entre 11 et 15 degrés sur une grande partie du pays, jusqu'à 18 de la Vendée au sud-ouest et 20 près de la Méditerranée.